Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce 10 juin 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter tout de suite le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Ne peut pas s'attendre à ce que l'Iran respecte ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire alors qu'il fait l'objet des sanctions unilatérales et injustes, a déclaré le représentant permanent de l'Iran à Vienne. La base militaire américaine Victoria Bagdad a été attaquée et au Burkina Faso, au moins 2 soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine dans l'est du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'Iran respecte ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire, alors qu'il fait l'objet des sanctions unilatérales et injustes. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de l'Iran à Vienne, M. Kazem Rahibabadi. Le responsable iranien a déclaré mercredi 9 juin que les dimensions extraterritoriales des sanctions des États-Unis étant en contradiction avec le droit international avaient empêché les Européens d'honorer leurs engagements. Un an après le retrait des États-Unis, l'Iran a bénéficié de ses droits définis dans le cadre de l'accord pour s'affranchir graduellement d'une partie de ses engagements. Cependant, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, était toujours en mesure de vérifier et de contrôler les activités de l'Iran, une coopération dite exceptionnelle en temps de la pandémie. Kazem Rahibabadi a continué. Bien que l'Iran ait cessé d'appliquer les mesures volontaires, dont le protocole additionnel, il a conclu plus tard un accord technique bilatéral temporaire avec l'agence à l'issue d'une série de négociations intensives. M. Rahibabadi a rappelé la participation de l'équipe de négociateurs iraniens dans déjà 5 tours de discussions sur le nucléaire. Il faut que ces négociations puissent contribuer à la création d'une garantie promettant l'annulation de toutes les sanctions de manière à ce qu'elles puissent faire l'objet d'une vérification. Aucun signe n'a encore apparu prouvant si les États-Unis sont réellement déterminés à cesser leur recours à la force et s'ils entendent commencer à respecter le droit international. Il a souligné que l'Iran recommencerait à remplir sa part de contrat dès que les autres signataires reviendront à leurs engagements et que les sanctions seraient levées. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'Iran respecte ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire alors qu'il fait l'objet de sanctions unilatérales et injustes, a-t-il conclu. 3 drones ont attaqué ce jeudi matin 10 juin le camp Victory qu'abrite les forces américaines. Des sonnettes d'alarme ont été déclenchées sur la base Victory et des témoins oculaires ont déclaré que le système de défense SRAM stationné à la base n'avait pas fonctionné. Le camp Victoria Bagdad est une base militaire de la coalition dirigée par les États-Unis, située à une distance d'environ 5 km dans les aérodromes de l'aéroport international de Bagdad, capitale irakienne. Le palais Al-Faouf, situé sur la base, est le quartier général de l'armée. Le camp Victory est l'une des principales et des plus grandes bases pour les troupes de l'armée américaine en dehors des États-Unis. Il peut gérer environ 14 000 soldats. Par ailleurs, 5 missiles ont visé mercredi soir la base aérienne irakienne de Balad et 2 des projectiles sont tombés à proximité d'une zone utilisée par des sous-traitants américains sans faire de victimes, a déclaré un responsable de la sécurité irakienne. La base aérienne de Balad, au nord de Bagdad, est utilisée par la société américaine Sallyport pour le maintien des avions de combat F-16 et a été à plusieurs reprises la cible de tirs de missiles. Les missiles ont été tirés vers la base depuis les villages situés autour de Tigre dans le district Al-Khalis de la province voisine de Diyala. Les attaques aux missiles sont considérées comme un moyen de faire pression sur Washington pour qu'il retire tout son personnel restant que les groupes de résistance considèrent comme une force d'occupation. À la mi-avril, les combattants de la résistance irakienne ont envoyé un drone rempli d'explosifs s'écraser sur l'aéroport d'Erbil lors de la première utilisation signalée d'une telle arme contre une base abritant des troupes américaines en Irak. En Syrie, les blessés de l'armée arabe syrienne, des forces de sécurité intérieure et des forces alliées à Hasaka ont organisé une activité nationale qui a été marquée par une cérémonie à l'occasion de l'accomplissement des élections présidentielles et de la victoire de Bachar al-Assad à cette présidentielle. Les participants à la cérémonie ont tissé les drapeaux nationaux et les photos du président Assad et les pancartes exprimant la joie du peuple syrien d'accomplir le droit constitutionnel. Dans la banlieue de Palmyre, après 7 ans de rupture et environ du fait des attaques terroristes, les paysans dans la zone d'Al-Bayarat Rabia ont commencé à nouveau à récolter le blé dans leurs terres. Le chef de l'Union des paysans, Ahmad Najm, a indiqué que les facilités nécessaires avaient été octroyées aux paysans, tandis que tous les besoins nécessaires du processus de production avaient été assurés, insistant sur l'importance du rôle de l'armée arabe syrienne dans le déminage des fermes après l'expulsion des terroristes de la zone. Et ce alors que les forces d'occupation américaines poursuivent le vol de la richesse syrienne dans les zones qu'elles occupent dans la région syrienne de Jazira. Et ils ont fait sortir 20 camions chargés de blé de la banlieue de Hasaka vers le nord de l'Irak via le passage illégal d'Al-Walid. Des sources locales ont fait savoir à la correspondante de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, qu'un convoi composé de 20 camions chargés de blé était sorti mardi soir des territoires syriens vers le nord de l'Irak via le passage illégal de Walid. Au moins 2 soldats burkinabés ont été tués lundi dans l'explosion d'une mine artisanale sur l'axe Tanvalboukou-Fada dans la province de Gouma, dans l'est du Burkina Faso, a-t-on appris mercredi de sources officielles. S'exprimant mercredi à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Ousseini Tamboura, a déclaré que ces soldats burkinabés ont été tués dans l'est du pays. Une source sécuritaire a expliqué que les soldats ont été tués dans l'explosion de leur véhicule au passage sur un engin explosif improvisé dans la localité de Ganiela, dans l'est du pays, où le même jour, 2 adolescents de moins de 14 ans avaient été tués à Tankoalou, dans la commune de Futori, selon l'agence d'information du Burkina. Ces attaques sont intervenues 2 jours après celles ayant fait 160 morts entre vendredi et samedi dans le Sahel du pays et plus de 3000 déplacés internes selon les chiffres officiels. La question du pôle Nord pourrait devenir un conflit stratégique par excellence entre la Russie et les États-Unis, en particulier après la fonte progressive des glaces, favorisant la situation pour la formation de nouvelles routes maritimes. C'est dans ce contexte que l'OTAN a organisé un exercice militaire qui s'est heurté à l'avertissement ferme de la Russie. La mission diplomatique de la Russie à Washington a déclaré dans un communiqué que l'organisation de l'exercice était provocatrice et qu'elle aurait un impact significatif sur l'instauration de la confiance en Europe. Bien que l'exercice ait été organisé les années précédentes par la participation des États-Unis, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, l'exercice de cette année intervient peu de temps après que la réunion du Conseil de l'Arctique est devenue le lieu d'une confrontation verbale entre les ministres des Affaires étrangères russes et américains. Alors que le changement climatique mondial s'intensifie, la calotte glaciaire arctique fond lentement, ce qui a fait de l'Arctique une zone de concurrence entre les puissances mondiales. La Russie essaie d'utiliser la région pour construire une nouvelle route commerciale internationale, d'où l'une des valeurs stratégiques de l'Arctique pour la Russie. À la veille du sommet de l'Arctique, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avertissant l'Occident, a déclaré « Il est clair depuis longtemps pour tout le monde que le pôle Nord est notre territoire. Nous sommes responsables pour assurer la sécurité dans les côtes arctiques. » Ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Furtivité iranienne. Pire crainte US. Un seul drone iranien suffit pour mettre au pas une méga base militaire. Qu'y a-t-il eu de si fatidique dans le récent rapport du général McKenzie, chef du CENTCOM, au congressiste pour que le journal du Congrès, The Hill, se démène ce mercredi matin, 9 juin, et fasse publier un article qui, en se passant sur plus de 16 ans de présence militaire US en Irak, et comme le disait Trump en son temps, des milliards de dollars perdus, conseille à l'administration US à prendre les poudres des scampettes et à quitter l'Irak. Dans son rapport de mardi à l'adresse du Congrès, le général McKenzie, représentant en Asie de l'Ouest du complexe militaro-industriel US Company, confie pour la troisième fois d'affilée, en moins de 2 mois, que l'US Air Force n'agit plus en supériorité absolue au Moyen-Orient et que les drones de petite et de moyenne taille fabriqués par l'Iran et de facture de combat et de reconnaissance sont désormais largement démocratisés à travers le Yémen, l'Irak, la Syrie et le Liban. Décidément, la dissuasion US au Moyen-Orient est jugée totalement perdue par un général US qui, pas plus tard et qu'en décembre 2020, poussait encore Trump à déplacer les bombardiers stratégiques B-52 et les B-1 de Diego Garcia vers la base d'Al-Udeid ou d'Al-Zahar en vue de frappes aériennes contre l'Iran ou ses alliés en Irak. Très curieusement, le drone est devenu cette bombe nucléaire que les USA brandissent en ce moment en Europe, rien que pour dissuader sur le dos des Européens la Russie. Mais il y a bien plus. L'accent mis par McKenzie sur la supposée petite dimension des drones iraniens qui les aiderait à percer tout obstacle revient à reconnaître que l'US Army n'a plus d'essai valable. L'allusion faite à 150 frappes aux drones et missiles yéménites qui ont pulvérisé depuis janvier Patriot et son crédit et son marché en dit long sur l'impasse militaire et partant stratégique dans lequel se trouve l'Amérique. Car cet aveu cache bien une crainte. Si ces drones et missiles se mettaient par la suite à aller au-delà du Moyen-Orient, là où la présence US est indésirable, ce n'est pas sans raison si McKenzie, aussitôt après avoir reconnu la défaite de l'US Army, revient sur les tentatives sino-russes de faire une percée au Moyen-Orient, tentatives largement confortées par les drones et les missiles iraniens. Ce constat renvoie largement au concept même de furtivité aérienne. En reconnaissant l'incapacité de l'US Air Force à identifier et à vaincre les drones ennemis, c'est le mythe de capacité furtive de l'US Air Force qui est remis en cause. car on peut être furtif quand on ne voit pas la deuxième frappe au drone irakien, ce 6 juin contre Ayn al-Assad en moins de 2 mois, et la quatrième contre une base US en Irak a pour le reste confirmé ce paradoxe. Depuis avril, McKinsey a bien compris que les États-Unis et leurs alliés n'ont rien de furtif en Irak. Les drones ennemis parviennent à s'infiltrer dans leurs bases, à tirer leurs cibles en nombre desquelles figurent les sièges les plus secrets de la CIA et du Mossad. D'où cette cuisante allusion du commandant en chef de plus de 160 10 000 GIs et marines répartis à travers près de 150 bases en Asie de l'Ouest au réseau. Un réseau miracle qui soit apte à intercepter et à vaincre les transiraniens, sans quoi l'axe de la résistance conservera sa supériorité. Le réseau, c'est cette Network Centric Warfare que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais su créer que sur le papier, leur concept d'alliant n'allant jamais au-delà des liens suzerains vassals. Or, l'axe de la résistance, dont le pacte de défense commune part du principe de partage, connaît guère ce genre de hiérarchie. Ce n'est pas le trône iranien qui s'est démocratisé, mais le savoir qui permet de le fabriquer, et c'est tout ce qui fait la différence entre réseau pro-iranien et coalition pro-US. C'est en se basant sur le rapport de McKinsey que The Hill du 7 juin écrit « Les frappes menées par de petits drones contrôlés par des milices liées à l'Iran constituent une menace de plus en plus pesante pour les troupes américaines en Irak, à tel point qu'un responsable anonyme de la coalition dirigée par les États-Unis les a décrites au Washington Post comme la plus grande préoccupation des États-Unis dans le pays. » Si tel est le cas, la menace des drones devrait être plus qu'une préoccupation. Cela devrait être une raison de plus pour retirer immédiatement toutes les troupes américaines d'Irak.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, discours prononcé hier. Dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah a souligné ce qui se passe en Palestine occupée, à Quds et à Al-Aqsa prouve que nous nous sommes confrontés à un ennemi d'idiot et de rancunier qui, empêtré dans la crise, pourrait fuir en avant. Netanyahou est aujourd'hui défait et qui patuge dans la crise pourrait recourir à des options hâtives pour en sortir, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah a également souligné que l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, que sa demeure soit au paradis, avait revivifié l'esprit de la révolution contre la tyrannie et l'esprit de la résistance contre les belligérants. Et Seyyed Hassan Nasrallah de préciser encore, les Palestiniens, quels que soient à Gaza, à Quds, en Cisjordanie et dans les territoires occupés de 1948, sont déterminés à défendre Quds et les valeurs sacrées. Il faut que l'Oumma les soutienne. Nous devrions faire remarquer de Seyyed Hassan Nasrallah de faire de sorte que toute agression contre Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develay. Maître Develay, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître de Volée, c'est une analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci.
Madame Midani, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle est, d'après vous, l'importance de ce discours de cet Hassan Nasrallah, qui a évoqué également la crise du Yémen, qui a évoqué également la crise que traverse actuellement le Liban, et tout en soulignant que le Liban peut solliciter l'aide de l'Iran pour, en fait, de sortir de cette crise. Votre lecture, votre analyse, s'il vous plaît.
De grandes victoires qui ont été réalisées en Palestine, au Yémen et en Syrie. Et puis en même temps, il y a une grande crise au Liban. Il a repassé, en fait, Mahmoud Hassan a repassé l'historique des victoires de la résistance, en fait, et puis l'historique aussi de sa création, je dirais. Donc, c'est très important, en fait, de souligner effectivement toutes les victoires, surtout pour ceux qui sont en train de dénigrer et de renier toutes ces victoires et de dire que c'est...
Madame Midanit, nous avons fait une mauvaise liaison avec Paris. Nous allons partir tout de suite, le monde de la technologie nous le permet, nous allons partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnaud de Volée. Et mes amis à la régie vont revenir vers Aïssar Midani pour établir ce contact et cette liaison. Et Maître de Volée, je vous pose en fait la même question. Quelle analyse portez-vous sur ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, s'il vous plaît?
Comme première impression déjà d'un discours qui portait à rassurer les habitants, rassurer les gens non seulement quant à l'état de santé du Syrien, beaucoup de rumeurs ont circulé ces dernières semaines, certainement amplifiées et peuvent porter par certaines parties qui avaient intérêt justement à laisser un peu les doutes, et qui a tenu à rassurer en première que sa santé était fixe. Et que toutes les sortes d'analyses d'experts porteraient à essayer de les continuer, c'est pourquoi le salaire de Soukoumaï sont des plaisanteries. Rassurant aussi, il y a Othon, qui, dans sa maestria habituelle, a appelé la télévision régionale, en soulignant bien sûr. La situation donc, dans la péninsule arabique au sens large et la victoire économique contre l'agression de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, en mettant le poids aussi en insistant sur le fait que lorsque les opérations militaires ne vont pas dans le sens des investisseurs, malheureusement, c'est la population qui est guidée et que dans ce contexte particulier, les offres de paix ou les approches sont en fait empreintes politiques puisqu'elles n'utilisent pas justement à alléger les bus qui empêchent les peuples économiques de manger à sa faim. Il a aussi évoqué la situation en Syrie en parlant bien, en soulignant bien justement cette opération dite FITNA, parce que c'est ce qui caractérise la situation syrienne dans sa genèse, et jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, en soulignant que les portes légitimes avaient repris la main sur la situation. Et il a bien sûr évoqué la situation au Liban, en mettant, j'allais dire, sous l'optique ses alliés de la coalition, que s'il ne prenait pas la responsabilité en formant un gouvernement, il prendrait acte de la situation et prendrait les mesures nécessaires pour éviter justement que le peuple libanais soit lui-même l'objet d'un piège alimentaire et économique tel que le pays s'en rendait pas capable. Il a mis en garde, il a été très clair sur ça. Et point très important, il a dit essentiellement, mais il n'est pas peur de terminer. En dirait que vous êtes probablement en parlant de ces années, vous semblez avoir une peur non fondée des États-Unis, et ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous mettons sous avertissement que si vous ne prenez pas les décisions législatives qui permettent d'entériner les mesures que nous avons commencé à prendre, nous prendrons les mesures qui sont imposées parce que bah, nous sommes un parti qui est responsable, un parti qui a fait de responsabilité, et ce faisant, nous ne pouvons pas que la situation se détériorer sans rien faire. Mmh. C'est peut-être une façon un peu de rassurer l'horizon, de rassurer les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inférences dans l'avenir en ce moment, et la voix de Saïd Nasrallah dans ce contexte est toujours des plus rassurantes.
Notre liaison, merci beaucoup, notre liaison, fort heureusement, avec Paris, et plus précisément avec Madame Aïssa Midani a été rétablie. Madame Midani, rebonjour.
Rebonjour, rebonjour à vous.
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends bien, oui. Et vous m'entendez bien?
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bon, notre liaison a été mauvaise. Là, notre liaison est très bonne. Madame Midani, vous étiez en train de faire votre analyse de ce discours de Saïd Hassan Nasrallah. Je vous en prie, la parole est à vous.
Ok, alors effectivement, je disais que c'était important de rappeler l'ensemble des victoires depuis la création de la résistance qui a été, donc dans les années 80-82, qui a été créée. Et l'ensemble des victoires qui se sont soldées par la libération du Liban en 2000, du Sud-Liban en 2000, puis de la victoire en 2006, et puis l'ensemble des victoires aussi bien de la résistance libanaise, mais aussi de la résistance palestinienne, de la construction de ponts entre la résistance libanaise et la résistance syrienne avec le peuple syrien, le peuple palestinien et le peuple yéménite. En fait, toutes ces victoires et toutes ces synergies au niveau de la résistance étaient aussi animées et construites par la radio-télévision Almana, qui est une télévision et radio engagée pour la résistance et qui ne cherche pas du tout le profit, mais qui cherche plutôt à construire effectivement cet esprit de résistance et d'offensive et en fait et de vérité. Donc, il était important aussi, ce qu'il a souligné, et c'était très très important, c'est que de toute façon, il y avait aussi, on a affaire à des ennemis qui sèment toujours qui sèment le doute et qui sèment la discorde, qui cherchent toujours à créer diversion, et nous sommes, à surmonter la diversion, et on arrive par la prise de conscience de nos intérêts communs face à cet ennemi sioniste qui est là et qui est idiot et qui est aussi peut aller très loin en période d'aventure. Donc c'était important de mettre les lignes rouges à cet ennemi. Et puis, aujourd'hui, il est important aussi d'être prêt, toujours, pour les batailles à venir. Mais aussi, donc, il a souligné les dernières victoires de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, mais aussi de la Syrie, du peuple syrien et de sa résistance aussi, donc cette coopération au niveau des résistances qui a changé la donne, je dirais, au niveau de la région. Mais aussi, il est important, donc il est revenu à la fin sur la crise libanaise, où il affirme qu'il n'y a pas de fatalité, que de toute façon, les solutions sont là. On peut toujours avoir des solutions. Nos ennemis cherchent à nous faire mourir de faim et à chercher à nous mettre à genoux. Nous n'accepterons pas ça, nous ne le ferons pas. Nous avons des solutions, nous avons des amis très proches, stratégiques comme l'Iran, qui pourraient, à la suite d'une décision importante, courageuse, une décision politique libanaise qui pourrait être prise par des responsables politiques libanais, elle pourrait nous fournir l'essence, le fuel, etc., qu'il nous faut. Donc, en fait, il ne faut pas accepter cet état, il ne faut pas accepter ces solutions que l'Occident veut nous imposer, qui sont des solutions qui nous mettent à genoux et qui nous mettent à leur merci, parce qu'il y a d'autres solutions où nous pouvons être toujours souverains et respectés. Donc ça, c'est un point, je pense que ce sont des différents points très importants. Il a souligné l'importance aussi de l'alliance stratégique entre toutes les, mais pas seulement dans l'axe de la résistance, mais aussi que de toute façon, la Jérusalem est Jérusalem, c'est quand même le centre de la religion musulmane et de la religion chrétienne, et il est important de défendre Jérusalem, que la défense soit prise en compte par l'ensemble des peuples musulmans et des peuples chrétiens face à cette offensive. Et qu'aujourd'hui, il faudra qu'on mette aider. Il faut quand même que l'ennemi comprenne que l'agression contre Jérusalem, ça veut dire aussi une guerre très importante, régionale, et qui le mettra en danger. Ça, ce sont les points clés, je dirais. Et il est important aussi que, de reconnaître que ce sont les Palestiniens aujourd'hui, les Palestiniens de Palestine occupée en 1948, les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza, ils ont défendu, et de Jérusalem, ont jusqu'à présent défendu et défendent toujours Jérusalem, mais il faudra aussi les soutenir et s'engager dans ce combat de défense de Jérusalem qui est le nôtre.
Merci beaucoup. Maître Develé, Madame Idani vient de faire allusion en fait à ce point qui a été évoqué par le secrétaire général du Hezbollah libanais, qui a en fait souligné que la défense d'Al-Quds, si vous voulez, la première des priorités. Et il a, Madame Midani également vient de l'évoquer tout à l'heure, a dit que voilà, nous devons agir de sorte que toute agression contre Al-Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. Maître Develé, là, cet Hassan Nasrallah semble avoir lancé une sévère mise en garde au régime israélien, comme quoi s'il y a une agression contre Al-Quds, ça entraînera une guerre régionale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments et des composantes de l'axe de la résistance réagira.
Oui, tout à fait. De toute façon, Saïd Nasrallah a toujours été cohérent dans ses positionnements stratégiques et il tient le discours de quelqu'un qui a confiance en ses forces, en sa capacité à infliger des coups de terrain à l'ennemi. Et ce faisant, il tient à lancer un message plus ou moins voilé aux autorités sionistes, que ceci soit à l'avenir représenté par la coalition avec la facette nord-capitaliste, ou bien en faveur de une cuisine interne israélienne, un retour aux affaires de Netanyahou, ça n'a aucune importance de toute façon. Par contre, ce qui se dit, c'est qu'on a en Netanyahou quelqu'un d'extrêmement impulsif, revanchard, on va dire amer et insiste à tous ses points. Donc, comme il a compris à qui il avait affaire, il met en garde quelque part le camion ou les autorités soviétiques en général. Tentation de créer une situation en cas de suicide qui, comme il l'a suivi, effectivement, entraînera une réponse à l'échelle régionale. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et c'est aussi une manière d'envoyer un message que, malgré les difficultés que traverse le Liban actuellement, n'allez pas imaginer que les capacités et la vigilance de l'Ebola s'en trouvent inversement affectées. Donc, que les choses soient bien claires. Donc, c'était important de le souligner, il l'a souligné dans son discours, et à partir de là, que les choses soient claires, non seulement nous sommes prêts à cette éventualité, et d'ailleurs les provocations ces derniers jours les soulignent, hein, on a eu, c'était pas quelque chose d'assez grotesque, d'assez pittoresque, avec l'armée sioniste qui a déployé des blindés pour l'histoire de fanions à la frontière, sans succès d'ailleurs. Et puis ce matin encore des fusées imminentes en plein jour. Donc voilà, c'est un petit peu le genre de comportement irrationnel auquel nous sommes confrontés, enfin auquel nous sommes témoins. Mais bon, il faut les garder. De toute façon, les sionistes ont été rappelés à l'ordre, si je puis dire, au travers des 11 jours d'opération de la route. Que le paradigme a changé, les forces en présence ont complètement mis à jour leur synergie et leur capacité psychologique à constater toute agression sioniste. Donc à partir de là, le discours est cohérent, il est limpide, il est clair et il est plus consistant.
Madame Midanit, s'agissant en fait du Yémen, c'est Hassan Nasrallah qualifié en fait de trompeur. Le geste de médiateur que s'offrent les États-Unis envers la crise du Yémen, en fait, s'agissant de ce point, il a précisé, tout cela est pour induire tout le monde en erreur, car les États-Unis veulent mettre un terme à la guerre tout en maintenant le blocus. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Exactement, c'est tout à fait parce que les États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, n'arrêtent pas de proposer soi-disant des cessez-le-feu, mais en fait, les Saoudiens ne cessent pas du tout, ils continuent à bombarder et à bombarder les civils et à bombarder l'ensemble des installations au niveau du Yémen. D'un autre côté, on voit que l'embargo continue, il y a même des navires avec des produits pétroliers qui sont dans le port pas loin du port de Hodeïda, que nous interdisent aussi de les décharger au Yémen. C'est effectivement, donc ils veulent continuer, ils veulent que les Yéménites arrêtent les combats, alors que les Saoudiens continuent à bombarder, et ils veulent aussi, il n'est pas question de lever l'embargo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imposer des conditions à un peuple qu'on affame, qu'on affaiblit, qu'on essaye d'affaiblir aussi au niveau de la santé en temps d'épidémie, et qu'on veut faire effectivement négocier, voire en fait faire du chantage à ce peuple et aux révolutionnaires yéménites, leur faire du chantage avec une sorte de goutte à goutte alimentaire, hein, et chaque goutte serait l'objet d'un chantage et puis les faire céder. Donc c'est Samah Cheikh Nasrallah a dit que c'est une véritable c'est un véritable mensonge que les États-Unis mentent et ils font miroiter des choses alors qu'ils ne les appliquent pas. Et c'est, ce sont en fait des il faut prendre conscience que ce sont des vrais menteurs qui veulent avoir le tout pour rien et qui font justement cette qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent la paix alors que c'est un discours trompeur, je dirais.
Merci.
Comme la majorité des discours en fait des États-Unis et puis de leurs alliés dans les guerres, pas seulement dans cette guerre, à vrai dire, parce que nous, en Syrie, on en a aussi une véritable expérience de ce qu'ils racontent, des mensonges qu'ils publient aussi et la réalité de leurs actions.
Merci infiniment, Madame Aïssa Armidani, d'avoir été avec moi pour cette émission. Et depuis Paris, mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud de Volet qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Le journaliste Bilal Abdelkarim dénonce la torture dans les prisons de Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Le journaliste américain, emprisonné à Idlib pendant 6 mois, affirme que la torture est monnaie courante dans les prisons de Hayat Tahrir al-Sham et que son dirigeant, Abu Muhammad al-Julani, est inapte à diriger. Pour la première fois, le journaliste américain Bilal Abdelkarim rompt le silence pour se confier sur son arrestation et les longs mois qu'il a passés dans une prison du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham dans la province syrienne d'Idlib. S'exprimant en exclusivité auprès de Middle East Eye, Abdelkarim accuse Abu Muhammad al-Julani, le dirigeant du Hayat Tahrir al-Sham, d'être inapte à diriger et de mentir concernant les conditions dans les prisons de cette organisation takfiriste. Al-Julani a nié dans une interview diffusée la semaine dernière sur le réseau américain PBS que les détenus du groupe étaient torturés. Hayat Tahrir al-Sham a interdit à Abdelkarim d'exercer son métier de journaliste ou d'apparaître sur les réseaux sociaux, condition de sa libération de prison en février. Il admet se mettre en danger en prenant position contre le groupe, même s'il assure avoir quitté le territoire contrôlé par Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham est une alliance de factions takfiristes armées qui contrôle une grande partie d'Idlib depuis 2017. Il s'agit de l'une des forces d'opposition les plus actives de la guerre en Syrie. Elle est considérée comme une organisation terroriste par l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis et bien d'autres pays occidentaux et accusée d'atrocités, d'exécutions et de crimes de guerre par les organismes de défense des droits de l'homme. Al-Julani, son dirigeant, qui commandait auparavant le front Al-Nusra, organisation affiliée à Al-Qaïda en Syrie jusqu'en 2016, lorsqu'elle a changé de nom pour Jabha Fatah al-Sham. Abdelkarim a déclaré avoir été menacé de maltraitance physique lui-même et avait été gardé à l'isolement pendant plus de 6 mois après son arrestation en août dernier. Il dit avoir entendu fréquemment les autres prisonniers être torturés dans les cellules avoisinantes. Presque tous les jours, chaque semaine, j'entendais les cris de torture à quelques mètres de moi. Tout le monde en prison peut constamment entendre la torture, a-t-il expliqué. En résumé, Abu Muhammad al-Julani a menti tout net, a-t-il ajouté. Abdelkarim dit qu'un des responsables de Hayat Tahrir al-Sham a essayé de justifier auprès de lui les remarques de Julani en faisant valoir que les mauvais traitements physiques infligés aux prisonniers n'étaient pas de la torture et étaient autorisés comme forme de punition pour faire admettre des méfaits. Je lui ai dit « Tu commences à parler comme les Américains. Nous n'appelons pas ça de la torture, nous appelons ça méthode d'interrogatoire renforcée. Mais la torture, quel que soit le nom qu'on lui donne, reste de la torture. » Nigeria, mort du chef de Boko Haram, Aboubakr Shekou. Le groupe rival de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a confirmé le décès de ce leader takfiriste ultra-violent dont le groupe terrorisait les populations du nord-est du pays. À force d'être déclaré mort, avant de ressurgir comme un mauvais génie sous ressort, éructant et menaçant, Aboubakr Shekou avait paru nimbé d'une force presque surnaturelle, celle d'un terroriste aux 9 vies qui soignait peut-être plus que tout sa propre caricature et poussait l'outrance en tout, dans les massacres comme dans les clowneries de ses apparitions, dans la violence infligée aux populations comme dans la vision poussée à l'extrême d'un soi-disant djihad qui a rebuté jusqu'au cadre de l'organisation Daesh. Aboubakr Shekou, la petite cinquantaine, avait au moins réussi sur un point, prétendre incarner la figure même du takfirisme au Nigeria, même s'il n'était depuis plus d'une décennie que le chef d'une des principales factions de cette mouvance englobée sous le terme générique de Boko Haram, laquelle avait atteint la célébrité mondiale en raison de son recours aux enlèvements de jeunes gens, dont les 276 lycéennes de la ville de Chibok en 2014. Ni Barack Obama, ni François Hollande, ni Benjamin Netanyahou, ni Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, ni la reine Elisabeth ne me tueront, disait-il triomphal. Fini le démon de l'absolu, comme celui de la pitrerie, Aboubakr est sans doute décédé vers la mi-mai, à en croire un témoignage attribué à Abu Mus'ab al-Barnawi, ancien complice, rival de longue date, et chef actuel de la filiale de Daesh, coiffant la province dite d'Afrique de l'Ouest, également appelée ISWAP, acronyme de la traduction de cette appellation en anglais. Dans un enregistrement diffusé vendredi 4 juin, ce dernier confirme que le 18 mai, lors d'une offensive des forces d'ISWAP, dans la forêt de la Sambisa, à l'ouest de Maïdagouri, capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria, Shekou a préféré l'humiliation dans l'au-delà à une humiliation terrestre et s'est fait exploser pour éviter d'être capturé par le groupe qu'il avait créé à l'origine en 2015. Il aura donc fallu un règlement de compte entre terroristes takfiristes pour venir à bout de cet homme pour lequel une récompense de 7 millions de dollars avait été promise par les États-Unis et des sommes colossales, sans doute à hauteur de plusieurs milliards de dollars, dépensées par le Nigeria afin de mettre un terme à l'insurrection de Boko Haram.
Thank you.